La perversion, c'est d'après le dictionnaire Larousse, l'action de corrompre une personne saine ou vulnérable, ou le fait d'être perverti. On ne reprochera pas au dictionnaire la concision des définitions des termes présents dans leur livre, mais il nous faut néanmoins élargir cette explication pour un peu plus de précision et aussi de clarté. Je dis nous, car je suis accompagné pour ce numéro du Labomatique d'une personne qui s'est beaucoup penchée sur le sujet au fil des thèses et des cours qu'il a menés. C'est donc monsieur Alain Abelhauser qui est avec nous aujourd'hui, là au micro de notre studio à Radio Campus Rennes. Bonjour monsieur Abelhauser.
Bonjour.
Est-ce que je prononce bien votre nom de famille ?
Oui. En Bretagne, c'est parfaitement acceptable.
Alors, Alain Abelhauser, vous êtes professeur en psychopathologie clinique à l'université Rennes 2, donc en ces lieux. Vous avez soutenu une thèse de psychopathologie en 1980, c'est bien ça ?
Oui.
Je m'excuse si je vous vieillis auprès de notre auditorat.
Non, c'était il y a très longtemps, il y a prescription depuis, mais vous avez tout à fait raison.
D'accord. Vos activités de recherche se sont ciblées autour notamment des conséquences organiques du fonctionnement psychique, de la clinique des perversions, des problématiques de l'obsession ainsi que de la féminité et de la sexualisation et des phénomènes de croyance, vous confirmez ?
Oui.
C'est des travaux parmi tant d'autres.
Mais je confirme tout à fait.
Vous êtes ici aujourd'hui car l'université Rennes 2 organise un cours public dont le thème est la perversion.
Cette année, c'est la perversion et il y a 7 conférences, comme chaque année, sur ce sujet.
Eh bien écoutez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Débutons par une question simple pour tenter de mieux définir l'objet de notre débat d'aujourd'hui. C'est quoi la perversion, monsieur Abelhauser, en quelques mots ?
C'est, je crois, d'une part un concept de psychopathologie ou de psychiatrie, avec un abord assez technique, si on peut dire, et par ailleurs, c'est un concept ou une approche qui ont des résonances aussi bien sociales, pourquoi pas économiques, pourquoi pas politiques, mais qui, finalement, implique l'homme en général, et non pas les pathologies ou les souffrances de cet homme, ce qui est le but de la psychopathologie.
Alors, c'est un terme qui est un peu usité, il est utilisé à toutes les sauces, vous ne trouvez pas ?
Bien sûr.
Mais pourquoi on utilise la perversion pour n'importe quoi ?
Ça, c'est le cas, si vous voulez, à peu près de tous les concepts de la psychologie. Très vite, à partir du moment où ils sont un peu répandus dans le champ social, très vite, ils sont détournés, justement, pervertis, si vous voulez, et ils prennent une autre acception. Au XIXe siècle, les concepts de la psychologie de l'intelligence, par exemple, ont été très vite détournés pour en faire des injures. On s'est mis à traiter les gens de débiles, d'imbéciles, etc. Ce sont des barreaux de l'échelle d'intelligence. On utilise le terme d'hystérie, par exemple, un peu sur le même mode. C'est-à-dire que ça devient une manière de stigmatiser ou voire d'injurier quelqu'un, de traiter d'hystérique. Bon, il en va un peu de tous les concepts de la psychologie. La psychologie n'est pas la seule discipline à être dans ce cas. La génétique peut l'être aussi. On traite quelqu'un de taré. Par exemple, taré, ça fait référence à une notion de génétique, de dans la transmission des parents à l'enfant. Donc la perversion, effectivement, à partir du moment où c'est utilisé dans le grand public, il est assez normal que ça prenne une signification différente de ce qu'elle est. Donc perversion, vous l'avez dit vous-même, si on reprend la définition un peu stricte, c'est le fait de détourner quelque chose de sa fonction originaire. Donc on peut l'utiliser d'une manière large, un peu à tout propos.
La perversion est souvent associée à la sexualité. A-t-elle un but et un rôle uniquement tourné vers la sexualité ?
Un but, je ne sais pas. Pour le dire d'une manière très simple, on peut considérer que la sexualité humaine est une sexualité qui est nécessairement perverse. Ce qui ne veut pas dire qu'on va considérer comme pervers tout humain qui a une sexualité. Ce n'est pas ça du tout, c'est le contraire. Pour dire les choses d'une manière extrêmement schématique, la sexualité animale, jusqu'à un certain point, est mue par la nécessité de la reproduction. Il faut qu'une génération puisse donner lieu à une autre et se perpétuer, etc. Pour que l'espèce survive, il faut bien que les individus qui composent cette espèce se reproduisent. Bon. Là, on est dans le champ de l'animalité, c'est-à-dire une sexualité qui est régie par la nécessité de la reproduction. La sexualité, c'est une fonction vitale pour l'espèce. Or, la sexualité humaine y échappe pour une grande part.
Bien. Je vais tenter de poser les bases sur le plan de la psychanalyse. Il y a deux personnes dans l'histoire de la psychanalyse qui ont énormément fouillé le sujet jusqu'à les théoriser. Il semblerait même qu'il y ait deux camps. Il y a Freud, Soutenant que nos maux proviennent pour la plupart de notre génitrice, hein, notre maman, mettant en cause la castration maternelle, c'est bien ça, non ?
Oui, non. Si vous voulez, la réduction de les malheurs du sujet proviennent effectivement de la faute maternelle.
C'est
plus que caricatural. C'est un très mauvais procès qui est fait à Freud. Bon, allez-y, continuez.
Mais c'est souvent ce qu'on lui reproche.
C'est souvent ce qu'on entend, mais ce qui est complètement faux.
Bien, je suis très content de le savoir. Et donc, il y a Lacan, qui est un peu moins connu du grand public, hein, mais qui vaut le coup qu'on parle de lui. Jacques Lacan, le psychanalyste français qui pensait que je manque de quelque chose, je suis frustré, je cherche donc à combler ce manque, et c'est ce manque qui me fait désirer.
Oui.
Mettons que ce manque, cet objet du désir, soit aussi bien pour un homme que pour une femme, eh bien, la femme. Il se demandait donc, mais au fait, ce n'est peut-être pas à cause de ma maman que je me sens mal, je me dois de me demander, mais au fait, que veut l'autre ? Que veut la femme ?
Lacan a construit tout son enseignement sur ce qu'il a appelé le retour à Freud. Au moment où Lacan a été reconnu, et Freud était mal traduit en français, Freud était très peu lu, très peu compris. Et le premier temps de l'effort de Lacan était simplement justement de permettre de bien lire Freud, de bien le connaître et de revenir à son enseignement. Et quand on se présentait comme lacanien, Lacan avait le coutume de dire « Soyez lacanien si vous voulez, moi je suis freudien ». Donc l'opposition Freud-Lacan n'en est pas une. Alors, le « que veut la femme ?» C'est Freud, c'est pas Lacan. Was will das Weib, c'est la grande question à laquelle Freud, d'une certaine façon, ne trouve pas de réponse pendant toute son œuvre. Il essaye de trouver des réponses de plein de manières. Quand il a justement des élèves, des disciples, etc., il y a même un moment, c'est un peu dérisoire, où il se tourne vers les psychanalystes femmes pour leur dire « Bon, écoutez, déjà, c'est difficile d'arriver à avoir des réponses de ce côté chez les patients, etc. Mais vous qui êtes des consoeurs, peut-être que vous pourriez en témoigner un peu plus. » Et justement, d'une certaine manière, Freud se heurte à ce qui fait pour lui mystère, qui est effectivement non pas le désir féminin, mais ce qui serait la spécificité du désir féminin. Pour plaquer comme ça des grandes notions, ce qu'on peut dire, c'est que là, l'opposition qu'il y aurait entre Freud et Lacan serait que si, encore une fois, le désir féminin pour Freud n'a pas cessé de faire mystère, Lacan a tenté de proposer des réponses à cette question. Là où Freud n'avait pas véritablement de réponse, ou en tout cas, toutes les réponses qu'il a pu trouver, il s'est rendu compte qu'elles ne tenaient pas le coup au fil du temps. Lacan, lui, a essayé de proposer des formes de réponses en considérant que, si on peut dire qu'il y a une sorte de prima phallique, hein, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le phallus en psychanalyse, c'est effectivement la manière dont on arrive à localiser l'objet du désir. Et donc, des tas de choses peuvent occuper cette position du phallus. Vous disiez que la femme peut être objet de désir. Oui, tout à fait. D'une certaine façon, la femme peut occuper une position phallique et donc être objet de désir à ce titre. On peut dire que l'homme en général, qu'il soit masculin ou féminin, essaye de trouver dans sa vie des objets de réalité qui viendraient occuper cette position de l'objet ineffable du désir. Pour illustrer, c'est une belle voiture rouge qui fait vroom vroom, ou bien une très belle femme que je peux montrer partout et je suis très fier, et bon, ou bien une position sociale, je suis professeur, etc. Tout ça, c'est finalement des équivalents phalliques. C'est des manières de briller, d'accord ? Donc on peut considérer que chez l'homme, chez la femme, etc., il y a toujours cette dimension phallique. Et ce qu'essaye de saisir Lacan, c'est que chez la femme, il y a une autre dimension, beaucoup plus difficile à saisir, qui est qu'il y a une autre référence que la référence phallique. L'idée, c'est qu'on se compare, celui qui est le mieux, c'est celui qui arrive à pisser le plus loin, pour dire les choses d'une manière extrêmement triviale. Il y a, chez ce qu'on appelle la femme, une autre dimension qui intervient.
Alors laquelle ?
Beaucoup plus mystérieuse. Pour continuer à être très schématique, on pourrait dire que c'est plutôt la dimension de l'amour, c'est-à-dire justement de quelque chose qui échappe au quantifiable, qui échappe à la dimension de brillance, la dimension de s'imposer dans les relations sociales, etc. Et qui est une dimension qui parfois peut par exemple avoir un côté un peu sacrificiel, etc. C'est chez les grandes amoureuses, par exemple, chez les mystiques, mais il n'est pas nécessaire d'être femme au sens anatomique pour prendre cette position. Il y a des hommes qui, d'une certaine manière, occupent ce qu'on appelle une position féminine. Mais ce que je disais, c'est que c'est du côté, par exemple, des grandes amoureuses, c'est du côté de la mystique, etc., qu'on trouve le meilleur témoignage, justement, de ce qui vient échapper au primat phallique qui peut conditionner la sexualité. Donc ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, c'est que la sexualité, elle est nécessairement perverse chez l'homme, dans la mesure où elle est indexée au fantasme, dans la mesure où elle est indexée à quelque chose qui n'est pas l'obligation de reproduction. Mmh. Quand Freud parle de la perversion polymorphe de l'enfant, c'est ça ce qu'il entend. C'est que un petit enfant peut se révéler aussi bien voyeur, fétichiste, ceci ou cela. Finalement, tout peut être objet de désir pour lui. Et qu'il y a une certaine forme d'évolution, de développement, qui consiste en ce que le choix d'objet de désir se limite de plus en plus. Je peux désirer tout et n'importe quoi quand je suis petit, et peu à peu, je ne désire plus que les hommes ou que les femmes. Et puis, ça continue. Puis, je ne désire plus que les femmes qui présentent tel type de caractéristiques. Et on restreint de plus en plus. D'une certaine façon, ce qu'on appelle le phénomène amoureux, à son acmé, c'est une restriction du choix quasi totale. Il n'y en a qu'une qui mérite d'être désirée complètement, c'est celle que j'aime. Et le pervers présente un processus un peu analogue. Le pervers est celui qui a besoin de retrouver un trait particulier chez l'autre qui suscite son désir. C'est le contraire de ce que Freud appelle la perversion polymorphe, où tout peut être objet de désir. Le pervers au sens clinique, le pervers adulte, c'est celui qui ne désire plus que d'une manière très localisée, qui ne désire plus qu'un certain type d'objet. Et si vous voulez que je vous horrifie, eh bien, qui ne désire plus que les enfants qui présentent telle caractéristique, ou les vieux, pourquoi pas, qui présentent telle caractéristique, ou le cadavre, ce qu'on appelle un nécrophile. Le pervers, c'est celui qui a restreint au maximum le choix de ses objets de désir, qui a besoin de la présence d'un trait particulier chez l'autre pour pouvoir le désirer. C'est le contraire, justement, de ce point de vue-là, du névrosé qui désire un peu n'importe quoi. Quoi et n'importe comment, et qui se rend compte après coup, souvent, que ça n'est pas ça ce qu'il désire. Le névrosé, lui, il ne le sait pas trop. Moi, j'aime les femmes, j'aime ma femme, je vis avec elle, etc. Et si on pousse un peu, je me rends compte que, oui, c'est à peu près satisfaisant, mais ça ne l'est pas vraiment. Et si vraiment on titille un peu trop, je conviens que mon bonheur est finalement un peu de façade. Et que si on gratte, suis-je vraiment heureux? Vous savez, vous me posez la question, est-ce que ça va? La plupart des gens considèrent que oui, bien sûr, ça va. Enfin, ils font une réponse de convention. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Vous me posez la question, comment allez-vous? Et je me pose à mon tour vraiment la question. Et j'y réfléchis. Est-ce que je vais bien? Est-ce que tu vas bien? Et ils disent oui, ou bien je te raconte. C'est-à-dire qu'ou bien ils font une réponse conventionnelle, ou bien ils vous disent que vous prenez le risque, qu'ils examinent la vérité de la question que vous posez et que ça peut aller très loin. C'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure, il peut se retrouver dans vos bras en train de sangloter et en disant « Ben non, finalement, je vais mal, je ne m'en rendais pas compte jusqu'à présent et que vous m'ayez posé la question me fait prendre conscience de combien je vais mal. » Bouh, il vous culpabilise parce que c'est vous qui avez déclenché ça.
Ah bah je réfléchirai autrement à la manière de poser ma question.
Ne vous inquiétez pas, tout le monde, la plupart des gens en restent aux réponses conventionnelles. Ce qui, pour les relations sociales, est quand même beaucoup plus pratique.
Quelque chose de pratique. Allez, on va écouter un peu de musique avec le suffocant Psycho Killer, pas le temps de respirer. Hein. Donc des Talking Heads, c'est de 1977, comme le nom de leur album, Psycho Killer, les Talking Heads, sur Radio Campus Rennes.
Fa 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 f Labomatique,
l'émission scientifique de Radio Campus Rennes.
La suffocation lyrique de David Byrne sur ce titre très connu des New Yorkais de Talking Heads datant de 1977. David Byrne, celui que l'on entend chanter en français d'ailleurs sur ce morceau, ressemblait un peu physiquement à Norman Bates, le anti-héros du très grand film d'Alfred Hitchcock, Psychose. Bon, il avait plusieurs problèmes, notre Norman. Il était en outre voyeur. Être voyeur, est-ce que c'est pervers, monsieur Abelhauser ?
Bien sûr, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on se place sur un plan psychopathologique, je vous disais que la sexualité humaine est d'une certaine façon toujours perverse. On peut considérer que chez le névrosé, ça se traduit sur le plan du fantasme et beaucoup moins de l'acte. Mais ce ne sont pas des traits pervers qui désignent la structure perverse ou le fait que l'on est pervers ou plutôt que psychotique ou plutôt que névrosé. Des traits pervers, tout le monde en présente. Et le héros de Psychose, il est psychotique, précisément. Hitchcock ne se trompe pas dans cette espèce de diagnostic qu'il fait. Il présente quelqu'un qui peut avoir des formes d'hallucination, qui finalement met en scène une espèce de délire extrêmement construit, où il se dissocie pour faire vivre sa mère qui est morte depuis longtemps, etc. Et avec des passages à l'acte de meurtrier, où il y a une nécessité qui s'impose à lui de supprimer un certain type de personnes, etc. Mmh. Là, on est vraiment dans le cadre de la psychose. Qu'il y ait des traits pervers dans le cadre de la psychose ou qu'il y ait des traits pervers pour tel ou tel psychotique, bien sûr, comme il y a des traits pervers chez tel ou tel névrosé. Mmh. Mais ce n'est pas le trait pervers, le fait d'être voyeur, ou le fait d'être exhibitionniste, ou d'être fétichiste, ou d'être pédophile, ou zoophile, ou on peut reprendre tout le catalogue. Ce n'est pas telle ou telle manifestation, qui est un trait, qui fait le diagnostic même de la perversion. Mmh. Ce qu'on considère en psychopathologie comme le propre de la perversion, c'est une espèce de dispositif où le pervers, finalement, met à mal l'autre avec lequel il est en relation, le déstabilise de plein de manières. Mmh. L'exhibitionniste, c'est peut-être le plus simple pour comprendre. Il met à mal, crée de l'angoisse chez l'autre en s'exhibant et en le mettant dans une position extrêmement inconfortable. Le dispositif pervers tient en deux choses. D'une part, la mise à mal de l'autre, et d'autre part, ensuite, le côté un peu pédagogique, didactique du pervers. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que tous les pédagogues sont pervers. En revanche, ce que je vous dis, c'est que tous les pervers ont une dimension pédagogique. Oui. Il y a après ce deuxième temps du dispositif pervers où le sujet pervers s'offre pour venir combler le manque qu'il a suscité chez l'autre. C'est ça, la perversion. C'est un double mouvement. D'une part, susciter la confrontation de celui avec qui on est en contact avec son propre manque et le déstabiliser, et ensuite se proposer pour venir combler, réparer la faille ouverte chez l'autre.
D'accord.
Je peux vous raconter une horreur que j'ai racontée 100 000 fois. Ça sidère un certain nombre d'étudiants, et puis il y en a d'autres que ça amuse beaucoup. C'est l'histoire de l'exhibitionniste et de la petite fille. C'est pour montrer ce mouvement et pour montrer comment la réaction de l'autre va pouvoir, dans certains cas, déstabiliser le pervers. Mmh. L'histoire de l'exhibitionniste et de la petite fille, c'est l'exhibitionniste qui dit à la petite fille « Tu sais ce que c'est qu'un pénis ? Tu veux voir un pénis ? Eh ben regarde !» La petite fille jette un coup d'œil et dit « Ah ben ouais, c'est comme une bite en plus petit. » Voilà, je raconte des horreurs, mais ça permet de très bien illustrer. Ce que vise le pervers, c'est à angoisser l'autre. Un exhibitionniste ne dépasse pas ce cadre. Ce sont les psychotiques qui passent à l'acte durement, qui par exemple vont commettre des meurtres à caractère sexuel, etc. Le pervers, il vise l'angoisse de l'autre, il va s'exhiber par exemple pour l'exhibitionniste dans un coin quelconque, et il voit les pauvres jeunes filles ou vieilles dames, enfin peu importe, qui s'enfuient affolées, etc. Et ça suffit très largement pour sa jouissance.
Donc le pervers, pour lui, c'est « je sais ce que tu désires voilà. alors que tu l'ignores ».
Exactement, exactement.
C'est ce qui fait jouir.
Exactement. Et si, encore une fois, par exemple, la jeune fille confrontée à ça s'arrête, regarde la chose et a des considérations un peu objectives sur le truc, eh ben, c'est terrible pour le pervers. Ce scénario tombe à plat.
Escompté.
Et eh ben, bien sûr, il n'y a pas une très grande différence entre l'exhibitionniste, qui a comme terrain de chasse tel passage d'immeuble ou je sais pas quoi, hein, tel endroit des toilettes de l'université pour attendre ses proies d'une certaine façon et venir s'exhiber à eux et les angoisser, les rendre mal et qui jouit de ça. Et puis quelqu'un d'autre qui utilise telle position hiérarchique, professionnelle, etc., qui utilise d'autres mécanismes sociaux pour donner des ordres sous forme un peu de double contrainte. Un certain type d'ordre et puis des ordres contraires et puis finalement les gens savent plus sur quel pied danser et puis quoi qu'ils fassent, on va leur dire que bah, de toute façon ils n'ont rien compris, qu'ils sont nuls. Et enfin, vous voyez, c'est-à-dire qu'on utilise toutes sortes de moyens qui sont extrêmement classiques, hein, c'est la grande banalité, pour déstabiliser l'autre et le mettre mal, mais cette fois-ci par des procédés relationnels assez simples au demeurant.
D'accord.
C'est ça, hein, ce qu'on appelle la perversion narcissique. Alors, il y a effectivement dans les gens qui agissent de la sorte, c'est-à-dire qui trouvent leur jouissance à mettre en difficulté l'autre de cette manière, il y a donc de vrais pervers. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément pervers. Quelqu'un qui a une dimension paranoïaque importante va, dans certains cas, aussi déstabiliser l'autre. Quand je faisais cours en première année, que j'essayais d'expliquer un petit peu, comme ça, dans les premiers cours et devant un grand amphi, ce qu'il en était, par exemple, du paranoïaque, je pouvais mimer les choses en désignant des étudiants, par exemple, dans l'amphi. Si vous ne pensez pas que je vois très bien ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de parler de moi, vous êtes en train de tramer un complot contre moi, et vous pensez que je suis complètement fou, parce que, bon, je continuais comme ça. Oui. Et au bout de quelques minutes, il y a un malaise considérable qui s'étend dans l'amphithéâtre, et je peux dire aux gens, voyez, quand je commençais à vous dire « je sais que vous pensez que je suis fou », là, vous êtes vraiment en train de le penser. Sauf que c'est moi qui l'ai induit, par ma conduite. Mmh. C'est ça le paranoïaque. C'est que d'une certaine façon, il a toujours raison. Sauf que c'est lui qui a induit les choses. Un paranoïaque, c'est pas du tout ce qu'on appelle un pervers narcissique. Mais de fait, les paranoïaques peuvent tout à fait, dans certains cas, avoir le même type d'effet. C'est pour ça que je dis que pervers narcissique, quand ça désigne un certain type de conduite, c'est un mauvais concept sur le plan psychopathologique. Parce que ça peut renvoyer à des personnalités, à des subjectivités très différentes les unes des autres. Et ça ne décrit pas bien la réalité des mécanismes.
On va désormais complètement abandonner ce terme. Il veut dire un peu finalement tout et n'importe quoi.
Oui.
Eh bien, on va terminer par cette supposition. Est-ce que finalement la perversion, ça ne nous apprendrait pas un peu plus sur l'autre et sur nous-mêmes ?
Absolument. C'est exactement ça. La perversion, comme un certain nombre d'autres structures psychiques, nous apprend beaucoup de choses sur notre sexualité, sur notre rapport à l'autre, sur notre rapport au monde et sur la façon dont on se vit et dont on se situe justement dans ce rapport au monde et dans ce rapport à l'autre, c'est-à-dire dans le rapport à soi-même. C'est exactement ça.
Bah, je crois que ce sera tout. On va clore cet entretien sur lequel nous aurions pu encore plus débattre. Mais merci beaucoup, monsieur Alain Abelhauser. Je rappelle que vous êtes professeur en psychopathologie clinique à l'Université Rennes 2. Donc, il est possible que n'importe qui peut vous croiser sur le campus de Villejean. Vous n'êtes pas paranoïaque.
Pas trop.
Oui, peut-être faire peur aux gens. Voilà. Merci encore, monsieur Abelhauser, d'être venu dans notre studio et à bientôt.
Merci à vous.
Ce numéro du Labomatique consacré à la perversion, ses formes et ses mécaniques est terminé. Si vous voulez en savoir plus, sachez que Alain Abelhauser est l'auteur de plusieurs ouvrages développant la thématique évoquée aujourd'hui, Le sexe et le signifiant et Mal de femme, la perversion au féminin consacré au rapport entre la perversion et la féminité. Vous pouvez retrouver le Labomatique et ses précédents numéros sur le site radiocampusrennes.fr. A bientôt et n'oubliez pas de rester curieux.